Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain ? En insufflant, je vous l'ai dit lors des dimanches précédents, en insufflant son esprit en deux grands singes, Adam et Ève, pour les élever à la dignité d'être humain. Pourquoi ? Il nous a créés pour mener à bonne fin la création, pour nous associer à son œuvre, pour nous confier l'univers, l'univers qu'il avait créé, pour travailler à cette œuvre. Lorsque le Seigneur Dieu a fait la terre et le ciel, il n'y avait pas d'herbe encore, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, personne pour travailler. Et la parabole du fils prodigue nous montre deux types d'écart, de refus ou d'excès. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne pense qu'à faire la fête, et l'autre qui ne fait que travailler, y compris le jour de la fête du retour de son frère. Alors on dit, il n'était pas au courant, il revenait des champs. De toute façon, il aurait trouvé une excuse, vous savez, on trouve une excuse, parce que ces deux garçons sont deux figures inversées et opposées, de la désobéissance et de la surobéissance. Vous connaissez le péché de surobéissance, vous comprenez à peu près, là, de soumission excessive à la règle, au texte. Pourtant, ce n'est pas de ce péché dont je vais vous parler ce matin, mais faire droit à cette parabole qui nous ramène dans les champs, dans le travail de la terre, et vous parler d'un péché, on va dire, un peu plus moderne, plus glamour, le péché écologique. Le pape François l'a évoqué début février parce qu'il recevait le corps professoral de l'Académie Alphonsienne. Alphonsienne, l'Académie des Rédemptoristes, fondée par Saint Alphonse de Ligorie, qui est le patron des confesseurs. Il faut prier pour tous les confesseurs, particulièrement en ce temps de carême. Et le pape, comme confesseur lui-même, a constaté que on s'accuse très rarement de ce péché écologique. On s'accuse très rarement d'avoir fait violence à la nature, à la terre, à la création. Nous ne sommes véritablement pas conscients de ce péché qui participe d'une structure de péché autrement plus large, ce qu'il appelle régulièrement la culture du déchet, qui considère l'être humain comme un bien de consommation qu'on peut utiliser, qu'on peut jeter. Au travail, comme en amour. Et les deux fils de cette parabole en sont deux caricatures. Le puîner évident, de consommation effrénée. Et le deuxième, de façon un peu plus retors, en quoi est-ce qu'il pêche contre la création ? En refusant la rédemption de son frère. Il préfère qu'on le jette, qu'il disparaisse, qu'on le mette au rebut. Alors on va dire, c'est sous le coup de la surprise, plus que de la colère. Bien sûr, on pourra toujours s'excuser après coup, dire que les mots ont dépassé sa pensée, en fait les mots ont révélé sa pensée. Ton fils que voilà a dévoré ton bien avec des prostituées, il l'a gaspillé, gaspillé en pure perte. S'il existe effectivement un péché écologique, encore faut-il savoir à quel commandement de Dieu il s'oppose. Est-ce que c'est au cinquième commandement ? Sur le respect de la vie? Est-ce que c'est au septième commandement, tu ne voleras pas, sur le respect des biens et sur la destination universelle des biens qui fait que la terre appartient à tous? Quel est le commandement de Dieu que nous violons quand nous jetons des papiers par terre? Quand nous laissons nos poubelles en pleine nature? Quand on a nos océans remplis d'immondices? Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas le faire? On ne peut pas mettre quand même des panneaux partout. Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas le faire? Il y avait une fiancée qui un jour avait vu ma grimace devant... Elle avait fait une liste de 19 témoins. J'étais un peu... Et elle m'a nargué en disant, où est-ce que c'est écrit qu'il s'est limité? Alors, on est tenté de répondre sur le même ton. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut garder son calme? Mais j'ai appliqué la logique de cette parabole où il y a un fils qui demande à son père de son vivant sa propre part d'héritage, comme si le père était mort, et où il y a un père qui donne effectivement sa part d'héritage à son enfant de son vivant. Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas le faire? Rien ne l'interdit. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut le déclarer parce que c'est taxé. Il y a beaucoup de choses qui sont taxées, mais ça, c'est taxé. Et les notaires mettent régulièrement en garde les parents sur le risque que les enfants fassent n'importe quoi, faute de savoir la valeur de l'argent, faute d'avoir des années de travail derrière eux. C'est ça dont on a besoin pour connaître la valeur des biens, la valeur de l'argent. Des années de travail. Je signale d'ailleurs à ce sujet que c'est ce que nous vivons depuis des mois, cette doctrine étonnante du maintien de l'ordre qui veut que quand il y a des saccages, on dit « oh ben non, ce ne sont que des biens, ce sont des voitures, des véhicules, des commerces, des biens publics. On peut laisser faire tant qu'il n'y aurait pas d'atteinte pour les personnes. » Doctrine absurde. Ces biens représentent des années de travail, parfois des vies entières de travail. Un ingénieur que j'avais connu il y a longtemps, qui est maintenant à la retraite, j'avais retrouvé au baptême de ses petits-enfants, est venu me consulter parce qu'il prépare son euthanasie. Il m'a expliqué, il a atteint un âge qui est pour lui synonyme de déchéance prochaine. Et donc il a pris contact avec une association spécialisée, vous connaissez les termes, pour mourir dans la dignité. C'est gracieux pour les malades. Mais dans une démarche louable, c'est un ingénieur de bonne formation, il s'est dit, il venait entendre prendre un avis opposé. Je l'ai prévenu que les souffrances ne s'arrêtent pas à la mort. Il m'a répondu qu'il était plus croyant. Je lui ai dit, je vous préviens quand même. Et, ne sachant guère quoi lui dire, je lui ai dit qu'il était radin. Je lui ai expliqué, vu vos moyens financiers, c'est un homme qui avait créé sa société, vous pourrez, si jamais cela se trouve, le moment venu, vous assurer une fin de vie confortable, semblable à ce qu'on trouve dans les soins palliatifs, minimum de confort d'entourage. Vous préférez stopper les frais pour laisser votre argent à vos enfants, dont il venait de me dire qu'il le dépensait déjà bêtement. Je lui dis, on gardera de vous le souvenir d'un homme impatient et radin. C'est quand on est en présence d'une personne qui n'écoute que son orgueil, il faut parler à son orgueil. Ça peut marcher, c'est ce que le Seigneur a fait avec moi. La conversion par l'humiliation. Alors, depuis, je prie tous les jours pour cet homme, notamment dans la prière d'intercession que je redirai tout à l'heure, dont certains m'ont demandé le texte, elle est sur le site dans l'homélie de ce dimanche. L'euthanasie, c'est un péché écologique. C'est une violence à la création. Comme l'avortement, la plupart du cas, c'est fondamentalement motivé sur un plan économique par ce que considère comme un surcoût que les personnes dépendantes, comme si nous n'étions pas tous dépendants les uns des autres et dépendants d'abord de Dieu, mais comme si les personnes dépendantes au sens de malades, handicapées, font peser à la société. Inutile, trop cher, allez, on supprime. Un progrès admirable. En fait, ce que cet homme ne supportait pas, c'était pas tant l'idée d'une déchéance, c'était déjà son sentiment d'inutilité sociale. Cet homme qui avait été si actif, productif, rentable, reconnu, admiré, se sentait inutile. Son entourage ne se privait pas de lui confirmer. Et comme tant de nos contemporains, il n'avait jamais appris à être. À être là, à attendre sans rien faire, à contempler, à se reposer, comme Dieu de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa. Le septième jour. Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Regardez dans cette parabole ces deux frères, deux agités, chacun à leur façon. Mais regardez surtout le Père, qui de loin, qui attend, qui de loin aperçoit le Fils qui revient, qui est saisi de compassion, qui sort ensuite pour parler à l'aîné, qui prend le temps pour chacun. avant d'être contraire au cinquième commandement sur le respect de la vie, au septième commandement sur l'usage correct des biens, les péchés écologiques, à la base au débat, au départ, manquent, contreviennent au troisième commandement sur l'observance du repos. Le type même du péché écologique, c'est l'exploitation inconsidérée des ressources naturelles. C'est le refus de laisser la terre se reposer, reprendre des forces, de laisser les poissons de la mer ou les arbres de forêt se renouveler quand on les décime aujourd'hui de façon folle. Le péché écologique, c'est l'exploitation inconsidérée du potentiel humain. C'est le dopage des sportifs, la contraception chimique, le travail forcé des enfants dans certains pays, des cadres supérieurs dans nos villes. Alors on dit, ils ne sont pas forcés. Qui peut croire que c'est vraiment librement que des hommes et des femmes deviennent esclaves de leur salaire, du profit, du stress, des titres? On ne peut comprendre la parabole du fils prodigue sans voir la place qu'elle donne à la fête. À la fête et donc fondamentalement à la joie. Une fête et une joie de retrouvailles, une fête de résurrection. Mon fils que voilà qui était mort est revenu à la vie. Quelle joie plus grande! Mais aussi une fête de la création, comme le dimanche célèbre les deux. La création et la rédemption. Ces deux fils n'avaient rien compris à la fête. Le plus jeune pensait que ça pouvait remplir sa vie. Et l'aîné aussi s'était mépris, qui ignorait son caractère gratuit. Cette fête, c'est le dimanche. Il y a une paroissienne absente ces jours-ci que l'âge a comblé de sagesse, qui m'a donné un petit livre qui avait ébloui sa génération de l'immédiat après-guerre. Ceux qui l'ont connu s'en souviennent, « Étoile au grand large » de Guy de Larigaudie. C'est un grand routier, un grand scout légendaire. Le premier par automobile qui a relié la France à l'Indochine, qui est tombé au champ d'honneur en 40. Et il y a un ouvrage posthume donc, qui s'appelle « Étoile au grand large ». Et voici ce qu'il écrivait juste avant-guerre, sous le titre « Flânerie ». Au rythme lent d'autrefois, celui des saisons et des plantes, l'homme n'était ni bousculé ni broyé. Il avait, par la force des choses, le temps de se regarder vivre. Il nous faut réapprendre la flânerie. Non pas celle où l'on promène un cœur vide et une âme sans pensée, mais la flânerie féconde, qui est comme une retraite en soi-même. Une flânerie féconde, une flânerie joyeuse, une retraite en soi-même. Alors il rentra en lui-même. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père, notre Père, le Maître de la création et de la rédemption.